Chapitre 36. Pascal avait le nez plongé dans la paperasse quand Charcot et Lucie débarquèrent dans la salle de crise. Il se leva, agita la main et tendit un papier. « Regarde, le dernier relevé de compte de Chevalier. 3 retraits par carte bancaire, conséquents, ont particulièrement attiré notre attention. Ils ont eu lieu dans le centre-ville de Nemours, en Seine-et-Marne, les 11, 22 et 30 octobre. Plus de 500 euros chaque fois. » Charcot prit la feuille et observa avec attention les lignes de compte surlignées en jaune fluo. « Le Bricorama de Nemours fait partie de notre liste de magasins distribuant le modèle des réservoirs qui nous intéresse, » intervint Lucie. « Dans le relevé de compte, on n'a pas trouvé de mouvement de carte bancaire concernant ce magasin, et donc j'ai appelé le service commercial. J'ai demandé à un responsable de rechercher les ventes et règlements de ce modèle de réservoir en cash. Ces trucs valent plus de 200 euros pièce. » Quasiment personne ne paye en liquide des sommes pareilles. Et pourtant, des enregistrements sont ressortis les 13 et 23 octobre derniers. Un seul achat par ticket de caisse.
Il s'y est pris à deux fois pour ne pas se faire repérer, estima Charcot.
Oui, et puis parce que transporter ces deux trucs en même temps dans le coffre d'une voiture, ce n'est pas évident. Bref, il entre dans le magasin, prend son réservoir, paye en liquide et ressort. Il recommence 10 jours plus tard.
Pascal se décala vers la carte routière.
Depuis le 30 octobre, plus aucun mouvement bancaire. Disparition totale des écrans radars, et donc on pourrait se dire qu'il subvient à ses besoins avec du liquide et se planque n'importe où, et pas forcément du côté de Nemours.
Ou alors qu'il n'a plus de besoins particuliers. Il a fait ses stocks, reste sur place, bien planqué, à l'abri des écrans radars.
Peu importe, c'est par ici que la suite se passe. Regarde, les appels émis avec le portable de Florence à destination de la mer ont eu lieu dans ce coin-là, aux abords de Montargis, l'autre ville importante le long de la Nationale 7. C'était la nuit de l'enlèvement de Florence et le lendemain, les 5 et 6 novembre, toujours Montargis.
Charcot voyait où Pascal voulait en venir.
Il fait plusieurs retraits et achats à Nemours fin octobre. Il appelle de Montargis début novembre. Il se cacherait donc entre ces deux villes séparées de combien? Une quarantaine de kilomètres?
Environ, oui. Entre ces deux villes et...
Son doigt suivit un trait grisâtre collé à la Nationale 7, pas loin de la voie de chemin de fer, un endroit où Florence et Bertrand pouvaient entendre des trains klaxonner.
Charcot se rappela les mots écrits par Bertrand sur la paroi du cylindre. Klaxon train. Entre Nemours et Montargis, c'est la pure campagne, le long de cette voie de chemin de fer, poursuivit Pascal. On trouve bien sûr quelques villages, mais malgré notre ciblage, il nous est impossible de définir précisément où l'ange se cache. Des lieux abandonnés, il y en a, mais c'est peu probable. Chevalier a besoin de l'électricité pour sa caméra, son éclairage et tout son système destiné à déverser l'eau. Un groupe électrogène est bruyant et donc attirerait trop l'attention. Et puis, ces endroits inoccupés peuvent être visités par des passionnés d'urbex, surtout sur des durées de plusieurs semaines. L'ange n'aurait pas pris ce risque. Il lui fallait quelque chose de tout aussi isolé, mais de beaucoup plus sûr, comme une maison. Je croise les doigts, mais il est fort possible que Lucie ait apporté la solution.
Charcot se tourna vers sa femme avec un air interrogateur. Elle lui tendit une photo et montra son téléphone portable.
J'attends un coup de fil du centre des impôts d'un instant à l'autre.
Franck se concentra sur le cliché. Il l'avait déjà remarqué dans l'appartement de Chevalier. On y voyait Grégoire Priester déposer des cannes à pêche dans le coffre d'un cabriolet. La première fois, il n'avait pas prêté attention à l'arrière-plan, une belle bâtisse en pierre cernée d'arbres et de verdure.
« Ça ressemble à une maison de campagne, non ?» suggéra Lucie. « Et si elle appartenait à Priester, et que Chevalier l'a squattée depuis quelques semaines, même avant la mort de Priester devant le bastion ?»
Charcot réfléchit quelques instants, séduit par l'idée.
« Ça colle bien. »
Il constata qu'ils portaient tous les deux leurs blousons. Ils étaient prêts à prendre la route, et vu leur entrain, il croyait à cette hypothèse dure comme fer.
« Il y a un autre truc qu'on doit te dire, » dit Robillard.
Mais auparavant, est-ce que tu crois que... Je veux dire, ça fait environ 18 heures que la caméra est éteinte. Ma question est, en admettant que l'eau se soit arrêtée de couler dans les cylindres à la coupure de l'image, cela te semble-t-il probable que Bertrand et Florence soient encore en vie? Tu les as vus, toi, au dernier moment. T'as vu où l'eau leur arrivait? Charcot inclina la tête. Des flammes brillaient dans leurs yeux à tous les deux. Des brûlots d'espoir éteints depuis des jours. Il fit l'effort de se rappeler, même si l'image le bouleversait.
Il pouvait encore respirer, mais Florence se tenait sur la pointe des pieds. Elle était contrainte de relever le menton pour ne pas avoir de l'eau dans la bouche. Je ne sais pas combien de temps on peut tenir comme ça. 18 heures, tu dis ?
Il secoua la tête.
C'est impossible. Pas dans cette position sur la pointe des pieds. Une demi-heure, une heure maximum. Mais...
Il se tut, le regard dirigé vers le sol. Et Bertrand ? Charcot haussa les épaules. Il avait du mal à estimer la souffrance à endurer pour tenir aussi longtemps. Debout dans l'eau, sans possibilité de s'asseoir, ni même de nager pour se détendre les muscles. La noyade par fatigue était pire, sans doute, que la noyade brutale. Devait arriver l'instant où les muscles lâchés, les genoux pliés. La tête glissait alors sous l'eau, le corps se tendait encore, on repartait pour 10 minutes de survie, on buvait la tasse et on sombrait à nouveau. Une mort au compte-gouttes, douloureuse, abominable. Mais combien de temps pouvait-on survivre debout, sans bouger dans l'eau froide ? Charcot n'en avait pas la moindre idée.
« Pourquoi tu me demandes un truc pareil ?»
Le téléphone de Lucie sonna. Les impôts. Après quelques secondes, portable calé entre la joue et l'épaule, elle se précipita sur la carte. Elle écrasa son index droit sur Dordive. Une localité située pile entre Nemours et Montargis. Elle nota l'adresse sur un bout de feuille et raccrocha.
Priester possède bien une résidence secondaire à Dordive. C'est là-bas qu'ils sont, Franck. C'est là-bas qu'ils sont.
Le rebondissement était si violent que Charcot peinait à comprendre. Robillard avait lui aussi le nez collé sur la carte. Il désignait les lacs au niveau de Dordive, piégés entre la Nationale 7 et le Loing, un affluent de la Seine.
On croit tous que Chevalier a brusquement coupé le contact. Pourquoi il aurait fait une chose pareille avant le bouquet final ?
En y réfléchissant bien, ce n'était pas logique.
À quoi tu penses ?
À la montée des eaux. C'est la catastrophe là-bas. Les habitants ont les pieds dans la flotte. Et si une inondation avait fait sauter les plombs de la maison ?
Charcot n'en croyait pas ses oreilles. La crue. Cette crue dévastatrice avait peut-être sauvé ou tout au moins prolongé la vie de Bertrand. Était-il possible qu'on les retrouve aussi vite et qu'il y ait encore un survivant ?
Il préféra ne pas s'emballer. D'une main nerveuse, il s'empara du téléphone, parcourut le répertoire des lignes directes et composa le numéro de l'héliport de Paris, basé à Issy.
À peine eut-on décroché qu'il lâcha
« Brigade criminelle, l'affaire Chevalier. Il nous faut un hélicoptère de toute urgence.